Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment parler d'égalité et de stéréotypes de genre avec les enfants? Un texte de la rédaction paru le 13 mai 2025 sur le site ONU Femmes. Conseils, outils et exemples concrets pour engager des discussions adaptées à chaque âge, à la maison, à l'école et dans les communautés. Avant même de savoir lire, la plupart des enfants ont déjà intégré l'idée que les garçons sont forts et que les filles sont faibles. Que vous soyez un garçon vivant en Belgique ou une fille au Ghana, les stéréotypes liés au genre et ce que cela signifie d'être un garçon ou une fille sont omniprésents à travers le monde. Les recherches montrent qu'à partir de 3 ans, les enfants commencent à assimiler les stéréotypes. Dès l'âge de 10 ans, les garçons ont davantage tendance à se percevoir comme des leaders, tandis que les filles intériorisent des limites quant à leurs capacités. Une étude révèle que 6 garçons sur 10 pensent que les garçons sont naturellement meilleurs que les filles en sport. Et à l'âge de 14 ans, les filles sont 2 fois plus nombreuses à abandonner le sport que les garçons. Ces croyances influencent les choix des jeunes, leurs rêves et leurs aspirations. Les enfants s'imprègnent des messages transmis par la famille, les médias, l'école et la société. Les jouets avec lesquels ils, elles, s'amusent, les histoires qu'on leur raconte et les rôles genrés incarnés par les adultes influencent leur perception de ce qui est considéré comme normal pour un garçon ou une fille. C'est pourquoi il est essentiel de commencer tôt à parler d'égalité et de stéréotypes de genre. Pourtant, bon nombre d'adultes ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que l'égalité des genres? L'égalité des genres est l'idée selon laquelle les personnes de tout genre, femmes, hommes, filles et garçons, ainsi que celles qui ont des expressions et identités de genre non-binaire ou trans, bénéficient de l'égalité des droits, des responsabilités et des chances. Il ne s'agit pas d'effacer les différences, mais de garantir le respect des droits et de la dignité de chaque personne de manière égale. Concrètement, cela implique de veiller à ce que les femmes et les filles aient le même accès que les hommes et les garçons à l'éducation, à l'emploi, au rôle de leadership et à la prise de décision. Cela suppose aussi une prise de conscience concernant les tâches domestiques non rémunérées, comme s'occuper des enfants ou des membres âgés de la famille, et de les répartir équitablement entre les membres de la famille, quel que soit leur genre. Or, aujourd'hui encore, l'égalité entre les hommes et les femmes reste un objectif lointain. Au rythme actuel, il faudrait encore près de 300 ans pour y parvenir à l'échelle mondiale. L'égalité des genres n'est pas seulement une question de justice, c'est un droit humain fondamental, indispensable à la paix, au développement durable et à la prospérité des communautés. 1. Parler d'égalité des genres. N'évitez pas les discussions difficiles. Maintenant que vous disposez d'une définition claire, il est temps d'engager la discussion. Il est essentiel de parler d'égalité des genres, des droits des femmes et des obstacles qui persistent encore. En abordant ouvertement et honnêtement les thèmes de justice, d'équité et d'égalité avec les enfants, vous les aidez à comprendre le monde et vous leur donnez envie de l'améliorer. Ces discussions n'ont pas besoin d'être officielles ou formatées. Elles peuvent avoir lieu lorsque vous lisez un livre, regardez un film ou même lorsque vous effectuez des tâches quotidiennes. L'essentiel est d'aider les enfants à remarquer et à remettre en question ce qui les entoure. Essayez ceci. Choisissez un livre ou un film pour enfants et analysez-le ensemble. Assurez-vous qu'il présente des stéréotypes de genre. Si vous avez choisi un vieux film d'animation, les personnages assumeront probablement des rôles traditionnels de genre, comme la princesse qu'il faut sauver. Demandez « Qui sont les personnages principaux? Quels sont ceux qui ont un rôle passif et ceux qui sont plus actifs? Qui fait avancer l'action et la narration? Que changeriez-vous pour que ce soit plus juste? » pour un regard neuf sur des récits connus, découvrez Awake Not Sleeping, disponible en anglais, une collection de contes de fées modernes venus du monde entier. 2. Faites attention aux mots que vous utilisez. Les mots que nous utilisons, surtout avec les enfants, influencent leur manière de se percevoir et de percevoir les autres. Des phrases comme « un garçon ne pleure pas »,« elle est autoritaire » ou « il joue comme une fille » semblent anodines, mais perpétuent des croyances limitantes sur le genre. C'est pourquoi il est crucial d'aborder tôt la question des rôles liés au genre et de les remettre en cause pour promouvoir l'égalité des genres. Utilisez un langage inclusif et valorisant. Félicitez les enfants pour leurs efforts, et pas seulement pour leur apparence ou leur force. Utilisez des termes neutres pour désigner les professions. Médecin au lieu de docteur. Présidence au lieu de président. Essayez ceci. Jouez à un jeu de substitution de mots. Demandez. Que peut-on dire à la place de « un garçon ne pleure pas » Quel autre mot peut-on utiliser pour parler d'une fille qui prend des initiatives au lieu de « autoritaire » Créez une affiche avec des phrases positives à accrocher à la maison ou à l'école. Par exemple, remplacez « autoritaire » par « sûr d'elle ». Remplacez « sois un homme » par « ne baisse pas les bras ». Remplacez « un vrai homme ne pleure pas » par « la vraie force, c'est de montrer ses émotions ». Vous écoutez « Comment parler d'égalité et de stéréotypes de genre avec les enfants », un texte de la rédaction paru le 13 mai 2025 sur le site ONU Femmes. 3. Répartissez les tâches domestiques entre tous les membres de la famille. L'un des moyens les plus efficaces d'enseigner l'égalité des genres consiste à montrer l'exemple. Les enfants observent qui fait quoi à la maison, qui cuisine, qui nettoie, qui prend les décisions. Lorsque le travail est partagé équitablement, ils, elles, comprennent que chaque contribution est importante et que le temps de chaque personne a de la valeur. Dans le monde, les femmes accomplissent en moyenne 2,5 fois plus de travail domestique et de soins non rémunérés que les hommes. Cet écart commence dès le plus jeune âge, les filles étant souvent plus sollicitées que les garçons. Pourtant, il est possible d'agir autrement. Le partage des tâches permet de développer des compétences utiles, renforce la confiance des enfants et favorise le respect du temps et de l'effort d'autrui. Ne présentez pas les tâches domestiques comme une punition, mais comme une façon de prendre soin des autres et de travailler ensemble. Essayez ceci. Créez un tableau des tâches familiales et alternez les responsabilités chaque semaine. En fin de semaine, proposez un moment de réflexion. Qu'as-tu appris à faire cette semaine? Incluez des activités comme mettre la table, ranger le linge, ramasser les jouets, lire une histoire à un petit frère ou une petite sœur. 4. Inspirez-vous de la vie réelle pour trouver des modèles à imiter. Les enfants apprennent par l'exemple. Montrez-leur des personnes qui remettent en question les stéréotypes de genre et défendent l'égalité. Parlez de célébrités ou d'activistes comme Anne Hathaway ou Malaya Yousafzai, ou encore d'hommes engagés pour l'égalité comme John Legend. Faites-leur découvrir les actions des jeunes militants et militantes d'ONU Femmes à travers le monde, de la lutte contre la précarité menstruelle en Turquie à l'accès à l'éducation des jeunes filles afghanes, etc. Enfin, faites découvrir aux enfants les grandes étapes de l'histoire des droits des femmes. Cela leur permettra de voir comment des femmes brillantes et courageuses ont contribué à construire le monde d'aujourd'hui. Essayez ceci. Créez un mur des personnalités inspirantes à la maison ou en classe. Chaque semaine, ajoutez une personne qui lutte contre les stéréotypes de genre et écrivez quelques lignes sur ce qui vous inspire chez cette personne et les causes qu'elle défend. 5. Parlez de sécurité et de respect en ligne. À mesure qu'ils, elles, grandissent, les enfants passent une grande partie de leur temps à jouer, apprendre et interagir en ligne. Or, les espaces numériques reproduisent souvent les stéréotypes et inégalités de genre du monde réel. Les filles, les femmes et les personnes issues de la diversité des genres y sont plus exposées au harcèlement, à l'intimidation et aux violences, surtout lorsqu'elles remettent en question les stéréotypes. Par ailleurs, des communautés en ligne toxiques, comme la manosphère, ciblent les garçons et les jeunes hommes avec des contenus misogynes qui dénigrent les femmes et présentent l'égalité comme une menace pour la réussite des garçons. Ces discours peuvent banaliser la violence et renforcer les stéréotypes de genre négatifs. Il est donc crucial d'accompagner les enfants et les adolescents dans leur utilisation du numérique, avec empathie et esprit critique, et d'avoir des discussions ouvertes pour assurer leur sécurité en ligne et hors ligne. Essayez ceci. Devenez ensemble des détectives des médias. Choisissez quelques vidéos ou des publications que votre enfant aime ou qui sont populaires. Demandez « Que dit cette personne sur les garçons, les filles, les hommes ou les femmes ?» Ce message encourage-t-il le respect, l'égalité et la bienveillance? Qui pourrait bénéficier de ce message? Qui pourrait en souffrir? 6. Valoriser les femmes et les filles dans le sport. Le sport développe la force, la confiance en soi et les compétences de la vie courante. Pourtant, à 14 ans, les filles sont deux fois plus nombreuses à abandonner les activités sportives que les garçons. Pendant des années, elles se sont senties peu représentées ou soutenues dans les carrières sportives. Mais le monde du sport évolue rapidement. Des sportives comme Simone Biles ou Ali Reisman sont en train de redéfinir la notion de pouvoir. La footballeuse Marta Vieira da Silva milite pour l'égalité dans le sport, tandis que Jenny Hermoso dénonce le sexisme. Ces athlètes sont en train d'inspirer une nouvelle génération. Quand les filles se voient sur le terrain et que les garçons voient des femmes championnes, cela redéfinit leur perception du possible pour chacune. Essayez ceci. Regardez ensemble un match féminin. Proposez aux enfants d'effectuer une recherche sur une sportive qui a bousculé l'ordre établi. Quels obstacles a-t-elle surmonté? Encouragez les filles à découvrir un nouveau sport et valorisez leurs efforts, pas uniquement leurs performances. C'était « Comment parler d'égalité et de stéréotypes de genre avec les enfants », un texte de la rédaction paru le 13 mai 2025 sur le site ONU Femmes.
Un artiste devra être indemnisé pour une murale cachée. Un texte de Philippe Teixeira-Lessard, paru le 3 août 2025 dans la presse. Les murales se cachent pour mourir. Simon Bachand, un artiste montréalais, devra être indemnisé pour la disparition de son œuvre géante, dorénavant dissimulée par la construction d'un nouvel immeuble, vient de trancher la justice. La décision soulève des questions juridiques importantes alors que les murales se multiplient dans la métropole, souvent sur des lieux promis au développement immobilier. En 2018, l'artiste Simon Bachand avait peint une grande murale sur un mur extérieur d'un immeuble de 5 étages situé au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Marianne sur le plateau Mont-Royal. L'œuvre avait été produite dans le cadre du festival Mural, consacré à cette forme d'art qui se tient annuellement. L'artiste avait reçu 1 500 $ des organisateurs pour la réaliser. Le mur donnait sur un stationnement. Or, un édifice de 3 étages a remplacé le stationnement en 2024, relate le juge Luc Huppé de la Cour du Québec dans une décision datée du 21 juillet. La murale est presque complètement cachée, voire détruite. M. Bachand a perdu l'une de ses œuvres, a écrit le juge Huppé. Pour un créateur, une telle perte est éminemment significative. Les idées artistiques, l'imagination et l'intelligence mises en action pour réaliser cette murale ne peuvent plus être constatées ni appréciées par ses pairs et par les amateurs d'art dans la réalité concrète qu'il accueillait. En entrevue, Simon Bachand, Stare de son nom d'artiste, a affirmé qu'il aurait accepté de voir le temps et les intempéries faire leur œuvre, mais que la disparition de sa murale avait été douloureuse. Le fait qu'une petite partie soit encore visible à distance ne donne plus qu'une idée médiocre de la composition initiale, de son apparence globale et du jeu des couleurs et des formes qui en constituaient la structure et l'essence, a expliqué le juge Huppé. Le festival mural peu respectueux. La Cour du Québec a décidé que cet affront vaudrait une compensation de 2 500 $ à Simon Bachand. Ce ne sera toutefois pas au promoteur immobilier de faire un chèque. C'est plutôt le festival mural qui a fauté, a estimé le magistrat. Le contrat, qu'il y ait le propriétaire de l'immeuble et le festival mural, prévoyait simplement que la murale devait demeurer visible pendant 12 mois suivant sa réalisation. Ce contrat a été respecté. Les organisateurs avaient toutefois l'obligation d'informer M. Bachand de ses modalités avant qu'il ne réalise son œuvre. Il aurait alors incombé à M. Bachand de prendre lui-même la décision d'accepter de telles modalités avec les risques qu'elles comportaient quant à la pérennité de sa murale ou au contraire de refuser de réaliser son œuvre dans de telles conditions, a écrit le juge Luc Huppé. En raison du silence de murale, M. Bachand a été privé de cette possibilité. Il est maintenant placé devant un fait accompli. Mural a manqué de transparence dans ses discussions avec M. Bachand, continue la décision. Il était peu respectueux pour Mural de retenir les services de M. Bachand pour réaliser une murale qui, pour celui-ci, s'inscrivait dans la continuité d'une œuvre globale s'étalant sur plusieurs décennies et développée à l'échelle internationale, sans l'aviser préalablement du risque de destruction de cette murale à court terme. Le Festival Mural n'a pas voulu commenter ce jugement. Une victoire, dit l'artiste. Même si le montant est symbolique, c'est une victoire au niveau de la protection des œuvres extérieures pour les muralistes canadiens, a commenté Simon Bachand en entrevue téléphonique. À ma connaissance, c'est une première nationale qu'on fasse valoir des droits moraux pour un projet de mural. Un artiste a deux types de droits sur ses œuvres. Des droits économiques, comme la reproduction, l'adaptation, etc., qui peuvent être vendus. Et des droits moraux, qui ne peuvent pas l'être, a expliqué en entrevue Maître David Langy, qui se spécialise dans le droit des arts et du divertissement. Les droits moraux comprennent notamment le droit de ne pas voir son œuvre être détruite ou le droit d'en revendiquer la paternité même après sa vente. C'est ce droit qui a été violé en l'espèce. On peut comprendre la surprise de M. Bachand de voir son œuvre cachée par la construction d'un nouvel immeuble, a dit Maître Langy, qui estime qu'il était légitime pour l'artiste de faire valoir une violation de son droit moral. La situation aurait peut-être été différente si l'œuvre avait été supprimée après 20 ans d'existence, a-t-il ajouté. C'était « Un artiste devra être indemnisé pour une murale cachée », un texte de Philippe Teixeira-Lessard paru le 3 août 2025 dans La Presse.
Pas toujours facile, pédaler en cohabitation. Un texte de Marc Soucioux paru le 10 août 2025 dans La Presse. Sur la piste du pont Jean-Cartier, cyclistes, piétons et trottinettes se frôlent souvent de très près. François Desmontagnes, un cycliste qui effectue le trajet entre Montréal et Longueuil 3 à 4 fois par semaine, a été témoin il y a 3 semaines d'un énième dépassement dangereux effectuée à vélo électrique. La présence de vélos électriques est problématique, estime-t-il. Même son cloche du côté de Jude Pfaff-Larose, une cycliste. Les tensions viennent surtout des manœuvres risquées, remarque-t-elle. Il m'arrive souvent d'être confrontée à des dépassements dangereux de cyclistes très rapides ou d'utilisateurs de trottinettes et gyro-roues, monocycles électriques, même lorsqu'un autre usager arrive en sens inverse, raconte-t-elle. Un espace censé être sûr se transforme en lieu de tension. Depuis deux décennies, on constate une augmentation de l'achalandage vélo, observe Jean-François Rault, PDG de Vélo-Québec. La croissance de la pratique va plus rapidement que la croissance du réseau. Ce constat résonne particulièrement sur certains axes très fréquentés, comme le réseau Express Vélo, REV, Saint-Denis, où les pointes estivales dépassent les 10 000 passages par jour. Sur les pistes cyclables montréalaises, la cohabitation n'implique plus seulement les cyclistes traditionnels. Cette diversité grandissante des usages complexifie la cohabitation. Outre des vélos traditionnels, on retrouve des vélos à assistance électrique, des trottinettes, des gyro-roues et des piétons, dont les vitesses et comportements variés compliquent le partage de l'espace. Avec un tel volume d'usagers, les pistes ne sont pas toutes adaptées au dépassement. C'est vraiment avec des aménagements de qualité qu'on sera en mesure de bien traiter la cohabitation, croit le PDG de Vélo-Québec. Il évoque l'exemple des arrêts d'autobus modernes qui ont des zones clairement aménagées pour faciliter les traversées piétonnes. C'est aussi ce que constate le cycliste utilitaire Han Koi Do. Selon lui, la cohabitation se passe généralement bien, si bien qu'il remarque une diminution des incivilités des automobilistes. Le vrai problème, c'est les piétons qui marchent sur la piste cyclable du REV, des rues Saint-Denis et Saint-Antoine, comme s'il s'agissait d'un prolongement du trottoir, estime-t-il. Ces piétons irrespectueux ignorent que beaucoup de cyclistes utilitaires cherchent également à améliorer le potentiel piétonnier de Montréal. Sommet de fréquentation. Selon les données compilées par Éco-Compteur, la fréquentation atteint des sommets intéressants sur les pistes cyclables montréalaises. Pour les mois de juin et juillet, on a dénombré 4 986 165 passages de tout type sur l'ensemble du réseau de Montréal, soit environ 168 000 passages de plus que cette même période en 2024. Sur le REV Saint-Denis, on dénombre environ 495 000 passages cyclistes à la hauteur de la rue Descarrières et 490 000 à la hauteur de la rue Rachel. Des augmentations respectives d'environ 8 % et 21 % par rapport à l'an dernier. Il faut continuer de développer les réseaux, indique Jean-François Rault. Il y a des choses qui avancent, mais c'est sûr que ça pourrait aller plus vite. Cette hausse de fréquentation s'explique par plusieurs facteurs, indique-t-il. Un réseau plus sécuritaire grâce aux aménagements du REV, l'attrait du vélo comme mode de transport rapide et économique, mais aussi la grève de la STM qui a forcé de nombreux usagers à opter pour un nouveau mode de transport. La sécurité à vélo, un sport d'équipe. La Ville de Montréal affirme que la sécurité des usagers vulnérables, en particulier les piétons et les cyclistes, est au cœur de ses priorités. Le plan d'action Vision Zéro vise un bilan de zéro décès et blessés graves sur le réseau d'ici 2040, un objectif appuyé par les projets de réaménagement. Lorsque la ville entreprend le réaménagement d'une rue, elle le fait désormais en ayant comme objectif que tous les usagers puissent se partager l'espace en toute sécurité. Indique, par courriel, Hugo Bourgoin, relationniste aux affaires publiques de la ville. L'aménagement du REV sur la rue Saint-Denis a notamment permis de sécuriser des points noirs comme le viaduc des Carrières, autrefois redouté des cyclistes. De son côté, le SPVM rappelle que les comportements à risque existent sur toutes les voies, qu'il s'agisse de routes, de trottoirs ou de pistes cyclables. Le non-respect des priorités ou des espaces réservés à chaque type d'usager peut compromettre la sécurité de l'ensemble des personnes circulant sur le réseau routier, signale le corps policier. Pour Vélo-Québec, améliorer cette cohabitation passera aussi par un changement de culture. Il faut vraiment s'améliorer sur le respect de la priorité piétonne. C'est ce qui va donner plus de confort aux piétons, estime Jean-François Rault. Avec un achalandage en hausse, chaque coup de pédale exige plus de vigilance. Cyclistes, piétons, automobilistes et autorités devront avancer dans la même direction afin de cohabiter de manière sûre. Quand les gens choisissent le vélo, c'est bon pour leur santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la ville et c'est aussi bon pour les automobilistes. Plus il y a de gens qui se déplacent à vélo, moins il y a de gens qui se déplacent en voiture. Résume Jean-François Rault. C'était « Pas toujours facile, pédaler en cohabitation ». Un texte de Marc Soucioux, paru le 10 août 2025 dans La Presse.